Clé en main, votre émission mensuelle sur Radio Grand Ciel RGC. Alain Roumestan, bonjour. Le mois dernier, nous avions évoqué deux résistants à l'Allemagne nazie, l'un mauricien, l'autre français. Ce mois-ci, nous allons vivre au quotidien hallucinant l'histoire d'un ami de ma famille né à Limoges, Georges Briquet, au travers de son témoignage poignant, rescapé de l'enfer nazi, paru en 1946 aux éditions La France au combat. Georges Briquet était un immense journaliste sportif, une des grandes voix de la radio, avant et après la Seconde Guerre mondiale. Il commentait les Tours de France cyclistes, mais animait aussi des émissions de variété, comme on disait à l'époque. Refusant de travailler à Radio Paris, contrôlé par les nazis pendant la guerre, il est suspecté d'activités anti-allemandes et est déporté à Dachau en 1944. Rentré de l'enfer du camp de concentration, de l'effroyable, comme il dit, voyage au pays de l'hallucination, ce que furent ces terribles épreuves et celles de ses compagnons de misère, c'est lui-même qui va nous les raconter, avec sa simplicité habituelle et son talent de journaliste. Très modestement, je lui prêterai ma voix pour la lecture de ces extraits terrifiants. Jean Ferrat était tout désigné pour nous accompagner dans les plages musicales de cette séquence.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Le 9 juin 1944, la radio anglaise avait annoncé la prise de Bayeux. Le 10 juin, au matin, à 7 heures, ma femme, ma fille et moi goûtons les dernières minutes du sommeil qu'on prend en cachette du soleil déjà levé. Soudain, un coup de sonnette strident. Qui est-ce à cette heure-ci? Quelques coups violents dans la porte de Voireau, que pas de doute, c'est la police allemande. Hélas, pas de retraite possible au cinquième étage. Vêtu en hâte, interrogatoire d'identité rapide et sec, vérification des cartes de policiers. Ce sont bien de vrais brutes de la Gestapo. 3 minutes pour ramasser hardes et couvertures, puis 2 minutes supplémentaires pour boire le dernier café et « Schnell, schnell, ne craignez rien, madame, c'est l'affaire de 2 jours maximum. » Très aimable, la brute me fait descendre les 5 étages avec le canon d'un gros calibre appuyé dans le dos. 10 minutes plus tard, je suis rue des Saussées dans une chambre forte où bientôt allait se grouper une quinzaine de personnes, de toute classe, de toute provenance, butin de la matinée. À 11 heures, descente vers une grande salle du rez-de-chaussée, où des gardes civils armés de la mitraillette surveillent un étrange mélange d'humanité. Les suspects, les résistants et les otages côtoient les trafiquants, les affameurs, les agents doubles, les gars du milieu, les filles publiques et les femmes allemandes. Le tout raflé la nuit dans un bouge, une chambre d'hôtel, un corps de garde ou un coin de trottoir sale. Va-t-on voir un responsable pour nous interroger? Va-t-on connaître notre chef d'accusation d'une façon précise? Eh bien non. Un vague sous-officier plein de mépris vient libérer les femmes allemandes aux mœurs faciles, puis les marlous et leurs belles. Plus tard, un autre Feldwebel quelconque arrive avec 3 listes et montre au sol 3 planches qui, posées de champ, forment 3 enclos. Ici, ceux pour Fresnes, là, ceux de Romainville, là-bas, ceux destinés à Compiègne. Nous voici bientôt 25 dans l'enclos compiégnois. Les heures passent toujours, aucun interrogatoire, aucune indication. À 13h, un car confortable nous amène vers Compiègne. À l'avant, 3 Italiens, en uniforme, braquent leur mitraillette vers la route. À l'arrière, 3 autres les braquent sur nous. On échange enfin quelques mots, on se présente. On se croit encore des hommes ayant une personnalité propre. Celui-ci est préfet, cet autre mécano, celui-là tient un bistrot, ici c'est le docteur G, grosse fortune. Là, un génie méconnu du théâtre, des ingénieurs de la SNCF, des commissaires de police, des avocats. Et le car contenant tout un monde passe au milieu de l'indifférence générale, première marche de l'escalier qui va nous conduire dans la noire oubliette. Compiègne, soldats casqués, armes chargées, barbelés, baraques. Appel, remise d'un numéro sur carton, notre nouvelle identité, une couverture, une gamelle, une cuillère, et répartition dans les bâtiments, la dégringolade continue. Dans l'atmosphère empestée des chambrées, sur les lits superposés, dans les chalits de bois, les punaises et les puces courent par milliers. Il va falloir vivre là, dans la vermine. C'est gai. Au réveil, on part à la découverte du camp. Compiègne, c'est une grande cour en pente, balayée par un vent violent qui vous glace les os en plein mois de juin. Sur cet immense plateau vide, des groupes d'hommes tournent sans arrêt d'un pas rapide pour se donner l'exercice pour vivre. D'autres groupes stationnent dans lesquels on distingue, durant de longues heures, tel ou tel en train de discuter. C'est comme une sorte d'immense salle d'attente de n'importe quoi, gare, ministère, aérodrome, stade. Mais à Compiègne, il y a des journaux qui arrivent régulièrement. Des civils français qui viennent de l'extérieur, en corvée. L'appel général, c'est la cérémonie qui a lieu à intervalles irréguliers, 3, 4, 5 semaines, cérémonie au cours de laquelle, durant tous les détenus rassemblés, on appelle ceux qui vont partir pour l'Allemagne. Une fouille minutieuse précède le passage dans le camp, c'est camp de départ. Les nazis qui nous fouillent précisent bien, surtout pas de couteau, pas d'outils, aucune pièce d'identité avec photo, pas plus de 600 francs, mais vous pouvez garder une photo de votre famille. Pensez donc, nous, les nazis, nous comprenons si bien cela. Menteurs, comme nous comprendrons nous plus tard. Et c'est une nuit idiote, infernale, pourrie, nerveuse, sans sommeil. Nous sommes empilés dans des chambres où un peu de paille est vite dispersée. Les tinettes dans tous les coins répandent leur odeur nauséabonde. Dans la nuit noire, certains ne vont pas jusqu'à elle et on trébuche sur le ciment, de corps affalés en excréments ou en colliers égarés. 3 heures du matin, debout, pas question de toilette, bagarre pour un thé sans sucre et rassemblement. Une petite pluie fine rend plus triste encore ce matin du 18 juin qu'il est déjà infiniment. Là-haut, dans la grande cour, la longue colonne se forme, plus de 2000 êtres qui vont, n'ayant commis aucun crime, partir pour l'exil. Quelles heures atroces allons-nous vivre alors dans ces wagons où, debout, serré, il faut se battre pour approcher pendant quelques secondes de la maigre fenêtre ou des tinettes encore elles, qui bientôt pleines vont à chaque secousse déverser leur contenu sur leurs voisins immédiats. Le jour est long, la nuit aussi, qu'on passe en station près de Lunéville. Un wagon de gardiens armés, des Italiens et des Allemands, à l'avant, un autre à l'arrière du train, fournissent des éléments de patrouille incessante. On roule encore tout le jour, où va-t-on ? Enfin voilà Sarrebruck, le train s'arrête longuement dans la gare, décidément nous allons en Alsace. Mais la porte du wagon s'ouvre, des gendarmes allemands aux faces bestiales apparaissent, ils sont armés d'énormes gourdins. En hurlant et en frappant à tour de bras, ils nous font comprendre que les 100 que nous sommes doivent se ranger et tenir dans la moitié du wagon, qu'il l'eût cru. Nous qui étions aussi serrés dans le wagon entier, nous tenons maintenant apeurés sur la moitié de cet espace. Il faut passer par 5 et gagner la moitié du wagon, rester vide. À chaque fois, le gourdin s'abat et à la fin, la brute, satisfaite, constate qu'elle a son compte. Nous sommes en Allemagne, notre escorte italo-allemande nous quitte. Ce sont les soldats gendarmes Bosch qui ont pris possession de leur bétail. C'est égal, quelle façon de souhaiter la bienvenue. Le voyage se poursuit, les heures se font plus longues, l'abêtissement nous gagne, on implore de l'eau dans les gares. Wasser, Wasser. Quelques civils, hommes et femmes, en guettant si un SS ne les surprend pas, nous passent un litre ou une gamelle d'eau. Mais un litre pour 100 hommes assoiffés, brûlant de fièvre, qu'est-ce ? C'est la bataille atroce entre Français, ce sont les disputes des coups et voici les défaillances, la mort aussi qui rôde. Pour nous, un défilé lamentable commence de la gare au camp. On empile les plus malades dans un camion et la colonne s'ébranle, les traînards s'effondrent les uns après les autres. Nous les ramenons comme nous pouvons, des malheureux se jettent à plat ventre pour boire de la boue liquide. Nous sommes obligés de les battre pour les empêcher d'aller ainsi à la mort. Indifférents, les civils allemands nous regardent passer. D'autres nous lancent un regard de haine, les gosses nous insultent et rient, pensez donc. Nous sommes des bandits, des terroristes dangereux, l'allié de l'Europe.
Je voudrais mourir debout. Dans un champ au soleil, non dans un lit au drap froissé, à l'ombre close des volets, par où ne vient plus une abeille, une abeille. Je voudrais mourir debout dans un bois sans entendre tout doucement la porte et le chuchotement, sans objet des gens et des vieilles et des serais pas là, j'aurais ta main que je pourrais serrer, la bouche pleine de groseilles, de groseilles.
C'est l'entrée au camp, 5 par 5, tête nue, par dizaines. Les SS nous comptent et nous recomptent. Les SS, ce sont eux qui vont nous garder dans ce camp de malheur, dans ce camp dont on dit que pas une pierre n'a pas sa tache de sang. Dans ce camp dont la devise est « On entre ici par la grande porte et on sort par la cheminée du crématoire ». Notre déchéance va maintenant se précipiter. Nous voyons certains détenus en costume rayé de forçats et nous pensons « Ce sont les punis, les auteurs de fautes graves ». Naïfs que nous sommes. Un appel nominal interminable commence dans la grande cour de Dachau. Juché sur une table, un détenu luxembourgeois tâche de retrouver une à une ses épaves qui traînent, maintenant assises, couchées, perdues. Il y a des malades, on apporte des caisses surmontées de deux planches pour poser les pieds, et là, en public, chacun vient à son tour satisfaire à ses besoins les plus naturels. Le spectacle est comique, on rit comme les fous de la tragédie. Bientôt, par groupe de 100, les appelés, ayant touché un café chaud, se dirigent vers un bâtiment mystérieux. Nous les guettons anxieusement, ils entrent, et au bout de quelques minutes, ils ressortent les uns après les autres, absolument nus, et traversent en courant une partie de la cour. Au bout de 30 minutes environ, le groupe de 100 reparaît, ou du moins nous supposons que c'est lui, car ces hommes qui étaient partis vêtus comme vous et moi reviennent couverts de loques infâmes, rapiécés, troués par des balles criminelles qui ont brûlé le tissu au passage. Ils ont le crâne entièrement rasé, les pieds chaussés de claquettes à semelles de bois. Ils marchent avec une peine extrême, le dos est courbé, le visage hébété, et tourné vers nous dans un sourire que nous n'arrivons pas à comprendre, car pour nous, tous ces camarades, tous sans exception, ont vieilli de 30 ans en une demi-heure. Que s'est-il donc passé dans cet antre infernal? Comment allons-nous, nous aussi, être transformés subitement en vieillards? Comment, en une demi-heure, il nous transforme en loques humaines? Eh bien voilà. Nous entrons dans une salle entourée de comptoirs, à la manière d'un vestiaire, avec une brutalité très couleur locale. Des prisonniers déjà anciens, porteurs d'un brassard de capot, nous font vider nos poches, stylos, montres, portefeuilles. Mais les photos de famille, on nous a dit à combien qu'on les garderait. Bah, chien de français, donne ça, tu n'en as pas besoin, les vêtements maintenant. Et vite, vite, vite. Tout, bien sûr, chemise, caleçon, chaussettes, tu ne comprends pas? Pan, et c'est le premier coup de poing. Les bagues, bah, mon alliance pourtant, 25 ans de mariage. J'ai du mal à l'enlever, d'un geste brusque. Au risque de me briser le doigt, le SS qui surveille l'opération l'a fait littéralement sauter. Nous sommes nus, absolument, et comble de l'ironie, au bas d'un papier portant la liste complète de ce qu'on vient de nous voler, c'est nous-mêmes qui apposons notre signature. Nous reconnaissons notre don, en quelque sorte, nus comme des vers, porteurs de ce qu'ils nous ont laissé. La ceinture, un mouchoir et notre matricule sur carton. Nous sommes projetés brutalement dehors et ridicules à notre tour, nous trottons vers la salle de douche. Tout ce qui nous rattachait à notre vie passée, ces petites choses qui faisaient corps avec nous depuis toujours, tout a donc disparu, tout. Ils vont nous montrer immédiatement que non. À la queue leu-leu, dans la salle de douche, nous passons au coiffeur. C'est la tontara, la tête d'abord, la figure ensuite, puis de moustaches, puis de barbe, monsieur le curé, puis tous les poils superflus tombent sous la tondeuse, sous les bras, sur la poitrine, sur le bas-ventre, plus bas encore, entre les fesses, on n'oubliera rien. Et inlassablement, la tondeuse qui vient de se promener dans les plis secrets de votre derrière attaque aussitôt la moustache du général, qui est votre suivant. Puis à la cadence rapide du travail industriel à la chaîne, on passe à la désinfection. Des hommes brandissent un pinceau qu'ils trempent dans un seau rempli d'un acide piquant. Allez les bras, oui, levez les bras. Un coup de pinceau sous l'aisselle, un autre sur la poitrine, un autre dans l'aine, et un second spécialiste vous interpelle brusquement. Retournez-vous, allez, courbez-vous. Et le pinceau dégoulinant de liquide désinfectant vient comme une caresse trop subtile fouiller les derniers recoins. On éclate de rire, que voulez-vous? Nous dégringolons de plus en plus, et quand l'humiliation touche au fond, ne vaut-il pas mieux rire, puisque c'est la seule défense qui nous reste? Puis c'est la douche, surtout ne perdez pas votre matricule, et l'habillement. On vous lance des loques infâmes, dont vous ne toléreriez pas la présence sur les épaules du dernier clochard client de l'armée du salut. Une chemise déchirée, un caleçon, dont on ne retrouve plus les jambes, un pantalon coupé au-dessous du genou, et un veston, l'un et l'autre clivés de trous de balles au pourtour brûlé, car ces vêtements furent portés par des malheureux juifs qu'on fusilla à coups de mitraillette. Comprenez-vous maintenant pourquoi, sortant de là, incapable de marcher, les pieds dans des claquettes de bois, nous allons le dos voûté comme écrasé par ce lessivage total de ce que nous fûmes et par la perspective que nous offrent ces vêtements de ceux qu'on tua en leur tirant dans le dos. À notre tour, nous rions de la déconvenue des camarades qui ne nous reconnaissent pas à la sortie de cette hideuse usine de transformation. Nous rions, mais bientôt nous n'allons plus rire. Nous avançons péniblement, conduits par le chef de bloc numéro 19, Messarian. Un nom à retenir, on se montre dans la grande allée de Dachau les arbres où on attacha des antinazis jusqu'à ce qu'ils meurent. Les blocs ou bâtiments sont parallèles et placés perpendiculairement de chaque côté de l'allée centrale. À gauche, l'accès des blocs est libre, ce sont les blocs des travailleurs, des anciens du camp. À droite, ce sont les blocs de quarantaine, les nôtres. L'espace qui sépare chacun d'eux, la cour, est fermé par une grille tôlée. Il ne faut pas qu'on voie ce qui se passe à l'intérieur et aucune fenêtre ne donne sur l'allée. Entrée très spectaculaire, on pose les sabots, puis on défile, pieds nus, dans le lavabo où deux splendides vasques de faïence blanche, débordant d'eau claire, donnent une impression de propreté remarquable. Les pieds ainsi rincés, nous sommes admis à entrer dans la chambre. Les lits de bois sont à trois étages et si serrés qu'on peut à peine passer dans les allées qui les desservent. Nous couchons à trois pour deux paillasses, et bientôt ce sera à cinq pour trois de ces couches de 70 cm de large. C'est une concentration incroyable, le cube d'air respirable est inférieur à celui d'un wagon de métro aux heures d'influence, et il va falloir dormir là-dedans. Notre chef de bloc, Messarian, parle français, et il va en profiter le bouc. Allez, oust, race pourrie, lit de l'humanité, sale port de français, repérez vos places et tous dans la cour. On ne va pas assez vite, on ne sait pas encore, aussi bien 5 minutes ne sont pas écoulées qu'un espagnol et un français gisent à terre sous les coups de poing, de pied et de matraque de la brute, qui durant 3 semaines va nous initier à la discipline allemande. Notre vie sera très simple, nous sommes en quarantaine morale, c'est-à-dire que, sans aucun contact avec l'extérieur, nous allons mijoter là dans une sorte d'autoclave jusqu'à ce que nous soyons imprégnés totalement de ce complexe d'humiliation, d'avilissement, de renoncement, de peur constante et d'indignité que les Allemands ont réservé aux déportés politiques. Levé à 4h30, 10 minutes pour se laver à 400, dans les deux belles vasques maintenant inabordables, rassemblement dans la cour, où on tient tout juste par rang de 10, des injures, des coups, des malheureux qui s'écroulent, de nouveaux hurlements de la brute, un garde-à-vous interminable, et c'est un SS qui vient rendre l'appel. Ensuite, distribution de gamelles, puis de café qu'il faut boire debout dans la cour, et toute la journée, jusqu'à la nuit tombante, durant des heures et des heures harassantes, sous un soleil de plomb, sans coiffure, il va falloir rester là, debout, inactif, sans espace pour se déplacer.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
C'est la quarantaine. Sous les morsures du soleil, les figures se boursouflent, la peau éclate, l'œdème s'empare des jambes et donne aux chevilles des aspects éléphantesques. Celui qui veut s'asseoir à terre, fatigué, est relevé à coups de trique. Le sang coule souvent, mais Sariane jouit en connaisseur. Tout est bon pour nous avilir, nous abrutir. Vous voyez là-bas, les gars, cette fumée, c'est celle du crématorium. Ce sont des copains qui brûlent, vous y passerez tous, à l'eau que vous êtes. Ordure, comme seule la France peut en produire. Les poings se crispent. Un malheureux proteste, les Français valent mieux que ça. Une nouvelle bordée d'injures, d'une grossièreté inconcevable et une grêle de coups, notre courageux camarade s'effondre. On le transportera à l'infirmerie, l'a-t-on jamais revu, je ne sais plus. Moi aussi je dégringole toujours et je m'accroche pourtant. Mais Sariane fait des trouvailles, il a remarqué que certains d'entre nous avaient pu passer leur montre au moment du déshabillé intégral. Il invente un vol, crie au scandale et réclame toutes les montres. Pas de succès, alors il nous menace d'une dénonciation au SS. « Vous verrez, dit-il, ce que c'est qu'une fouille de SS, ils retourneront tout, lit, paillasse, vêtements. Et s'ils trouvent la moindre des choses, 50 d'entre vous au moins seront exécutés. » On le croit, les montres rentrent, mais Sariane en rendra 5 au bureau du camp et en gardera 25 pour faire du commerce, avoir de la viande, fumer des cigares, vivre dans du beau linge. Une autre fois, sous un prétexte idiot, il jette dehors en vrac toutes les victuailles que nous avions sauvées. Car finalement, les SS nous les avaient donnés à leur arrivée en les extrayant des colis individuels que nous avions confectionnés à Compiègne. Puis, comme pour une odieuse vente aux enchères, il présente un pot de confiture, un paquet de biscuits, il crie « À qui, ça ?» Le propriétaire s'approche, et en lui tendant son maigre viatique, Messériane lui flanque coup de poing et coup de pied, sans autre raison. Résultat, on se dégonfle petit à petit, on n'ose plus aller récupérer son bien, et la brute garde tout pour elle. Mais Sariane nous empêche de boire de l'eau, elle provient des marais sur lesquels est bâti le camp, dit-il, et dans lesquels on pourrit des milliers de cadavres, alors attention à la typhoïde. Il fait chaud, les heures debout au soleil sont longues. On obéit presque pourtant par prudence. Mais pour la moindre gorgée volée, quelle grêle de coups et d'injures. La brute interdit du même coup l'accès des lavabos tout au long du jour, et comme il est impossible de se laver à 400 à la fois le matin, on ne se lave plus. De temps en temps, mais Sariane surgit dans les cabinets où, alignés par 10, on besogne en chœur sur de curieux sièges en faïence. Sans raison, il frappe et vide les lieux qu'on évacue, bête apeurée, en sauvant son pantalon, comme on peut. Un malheureux n'a pas pu, en tirant sur la chasse d'eau, vider la cuvette encombrée à son arrivée, mais Sariane s'en aperçoit, lui prend la tête et lui plonge la figure dans la merde. D'ailleurs, la brute, auteur de ce geste abominable, nous explique aussitôt que nous bénéficions d'un régime de faveur, car, dit-il, l'an dernier, il a forcé un Russe à manger ses propres excréments. Ah, il s'y entend l'animal à nous insuffler la discipline. Cette discipline qui consiste à obéir sans comprendre, à subir sans se plaindre, il profite de tout pour ridiculiser l'un ou l'autre. Dans notre cour, les nouvelles arrivent malgré le cordon de silence qui nous entoure. Elles volent de bloc en bloc par les fenêtres et il semble bien que la source se situe à l'infirmerie autour d'un poste récepteur clandestin. Mais que de déformations, que d'exagérations dans ces bouteillons, les nouvelles. C'est comme la langue d'Ésope, elles apportent le meilleur ou le pire. Le meilleur, c'est lorsqu'on apprend que le front de Normandie est crevé, qu'en Prie, le Mans aussi et Chartres menacés. Le pire, c'est lorsque le lendemain, on apprend que ce n'était pas vrai et qu'il faut reculer jusqu'à la Haie du Puy, jusqu'aux abords de Saint-Lô. Ce système de douche écossaise a des effets trop désastreux sur certains cerveaux déficients pour que les Allemands ne l'exploitent pas. Nous découvrirons plus tard qu'il existait un service de propagande chuchoté allemand. Celui-ci, par l'intermédiaire de complices ou de naïfs, lançait des nouvelles sensationnelles entendues à la radio anglaise ou américaine. Une joie immense nous envahissait alors et il n'était plus le lendemain qu'à laisser aller le démenti par les faits pour que notre morale tombe au plus bas. Le résultat recherché était atteint, nous étions un peu plus ramollis que la veille. Mais j'ai l'impression que je suis sorti de notre cours de quarantaine. Il est vrai que nous en sortons un peu maintenant. Après la splendide désinfection du début, nous défilons à l'infirmerie où, avec un soin méticuleusement allemand, nous remplissons des fiches médicales. Maladie, blessure, infirmité, rien n'est oublié. Passage à la radio, contrôle des dents, mais ça c'est pour repérer celles qui sont en or et les récupérer, le cas échéant sur le cadavre, avant la consommation au crématorium. La menace était constante et d'une diversité telle, si vous étiez malade, vous risquiez l'envoi au bloc, des déficients à Dachau, d'où hélas, trop souvent, on ne sortait pas vivant. Si vous étiez bien portant, vous étiez à la merci de n'importe quel tirage au sort, n'importe quelle fantaisie de l'Arbeitseinsatz pour être expédié dans n'importe quel commando. Ces départs qu'on appelait transport n'étaient pas sans perspectives dramatiques. Tantôt, ce sont ceux qui partaient par Trotzberg en bonne santé relative, c'est-à-dire pesant plus de 50 kg, nous reviennent à l'état squelettique et pesant de 28 à 35 kg. Tantôt, ce sont ces 1000 camarades qui, par un matin de septembre, partent pour Erzbruck et nous reviennent, 6 mois après, qu'au nombre de 30. Que s'est-il passé? Rien que de très simple. Ils sont tombés dans un petit camp d'extermination, un de ces petits camps pour 400 hommes, où on en loge 1000 et qui, par centaines, sont ignorés, dissimulés qu'ils sont dans toute l'Allemagne. Dès l'arrivée à Erzbruck, nos camarades sont affectés à une corvée de charbon. Il s'agit de porter à la main le maximum de briquettes d'un bout à l'autre du camp. Seulement pour éviter que la colonne montante ne rencontre la colonne descendante, on fait faire aux déportés un tour complet du camp, soit 1 kilomètre chaque fois. La nourriture insuffisante, le mauvais état de santé général rendent cette corvée extrêmement pénible. Aussi bien après 2 heures de cet exercice, un Français s'arrête et tombe exténué. Le capot qui commande la corvée se précipite et frappe notre malheureux camarade avec une sauvagerie, tels que des cris réprobateurs de plus en plus nombreux partent des rangs des travailleurs. Cette révolte, anodine pourtant, paraît inacceptable pour ce capot qui, ne l'oublions pas, est enrayé comme ceux qu'il commande. Aussi court-il prévenir le SS de service, celui-ci en furie ordonne que la corvée s'effectue en courant, sans arrêt. 2 heures plus tard, ce carousel infernal a déjà fait 2 morts. Un surveillant français, sous capot, intervient alors auprès du SS pour qu'il accorde un peu de repos à ses camarades. La brute, pour toute réponse, offre une cigarette au sous-capot et l'invite à contempler le spectacle avec lui. Sadisme de SS, trop heureux de pouvoir ainsi opposer un Français aux autres et les dresser contre lui. La sinistre comédie continue et d'autres hommes tombent, victimes de cette cadence atroce qu'on leur impose. Enfin, à 15h30, ordre est donné d'arrêter la corvée, alors que de nouveaux morts sont venus s'ajouter aux malheureux qui avaient déjà payé de leur vie les cris réprobateurs bien innocents. Dans ce camp d'Erzbruck, le chef de camp, détenu lui aussi, a tué de sa main 40 déportés. Certains blocs Alcester avaient tarifié la prise d'un pain civil clandestin à 250 coups de schlag. C'est un supplice dont il est miraculeux de sortir vivant, tout cela pour un pain. Ce camp en pleine organisation connaît un désordre indescriptible. Aussi, chaque soir, à l'appel, SS et capot ne retrouvent pas leur effectif exact. Il y est pour ces messieurs un embrouillamini et l'appel se prolonge presque tous les soirs jusqu'à 1h du matin. L'appel matinal ayant lieu à 3h30, on voit ce qui reste de sommeil pour des hommes qui, après une station debout de 1h30 dans la cour, partent à 5h pour le commando de Pommersbrunn où ils travaillent maintenant dans la boue jusqu'au genou à la construction d'une gare. Avec ce traitement, comment s'étonner que par le seul jeu de la vie quotidienne imposée aux détenus, il en meurt chaque jour entre 50 et 60 pour un effectif de 2500 présents. Cette aventure terrible se termine par un départ général le 8 avril, alors que les Américains arrivent d'un côté et les Russes de l'autre. Il s'agit de rentrer à Dachau et faire 500 km à pied en côtoyant le front. Aventure terrible. Je viens de le dire, mais aventure qui, avec ses 30 rescapés sur 1000 partants, n'a rien d'extrêmement particulier, et que je raconte uniquement parce qu'elle en évoque 100 autres semblables vécus dans tous les coins de l'Allemagne par les déportés de tous les pays d'Europe.
Au printemps, de quoi rêvais-tu? Vieux monde clos comme une orange. Faites que quelque chose change. Et l'on croise des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Au printemps, de quoi riais-tu? Jeune homme bleu de l'innocence, toute à couleur de l'espérance, que l'on se batte dans la rue ou qu'on y danse. Au printemps, de quoi riais-tu? Printemps, de quoi rêvais-tu? Point levé des vieilles batailles. Et qui sait pour quelle semaille? Quand la grève épousant la rue bat la muraille. Au printemps, de quoi rêvais-tu? De quoi doutais-tu? Mon amour que rien ne rassure. Il est victoire qui ne dure que le temps d'un navet pas plus ou d'un parjure. Au printemps, de quoi doutais-tu? Rêves-tu d'une autre fin à la romance? Au bout du temps qui se balance, un chant à peine interrompu, d'autres s'élancent. Au printemps, de quoi rêves-tu? D'un printemps ininterrompu.
Diminué moralement, décimé, c'étaient les deux mots d'ordre qui commandaient à nos geôliers tous leurs gestes. Nous l'apprenions chaque jour, soit en étant les témoins d'actes abominables, dont je vais vous parler maintenant, soit en écoutant les récits hallucinants de nos camarades venant nous rejoindre de temps en temps, véritables fantômes échappés de l'enfer, de ces terribles camps d'extermination. Comment tuait-il par tous les moyens? Voici établi sur des témoignages irréfutables le plus abominable scénario qu'ait jamais pu engendrer une association de cerveaux humains. Au bloc 13 du commando d'Allard, notre chef de bloc, je vous l'ai dit, s'appelle Rüger. Petit, la figure poupine, c'est dit-on un ex-communiste interné depuis 12 ans. Ce bail lui vaut quelques excuses, car c'est une sorte de fou furieux. Il frappe à tort et à travers avec tout ce qui lui tombe sous la main, et pour lui, comme pour beaucoup d'autres capots, les sévices ne cessent que lorsque la malheureuse victime perd son sang en abondance ou roule à terre. En ma présence, Rüger n'a tué personne, mais certains de ses camarades ont des morts directes ou indirectes, non sanctionnées, bien entendu, sur la conscience. Autre petit travers de Rüger, il adore s'écouter parler, et cela nous vaut des discours d'une bonne heure, en allemand. L'interprète Schlinger, contrôleur du métro à Paris, nous les résume en 3 minutes, ça ne vaut pas plus. Maniaque de la propreté, ce qui est à son honneur, il roue de coups le malade qui, ayant eu des coliques dans la nuit, s'est laissé aller dans une des grandes tinettes installées le soir dans la baraque, car vous vous en doutez, il est interdit de sortir pour aller au WC après le couvre-feu. Dernier travers de Rüger, il veut que son bloc soit le plus discipliné du camp pour se rendre à l'appel et en revenir. Alignement impeccable, rectifié à grands coups de pied et de gifle, marche stricte ou pas cadencée. Tête haute, manœuvre parfaite, nous faisons peut-être l'admiration des SS, mais lui fait la joie du camp, où on l'appelle Napoléon à cause de sa discipline militaire, de certaines redingotes qu'il affectionne et qui ressemblent à celles que porta l'empereur. Et enfin, à cause de ses déclarations comme celle-ci, La France est un petit peuple qu'il faut punir. Elle a eu un petit homme qui fut un grand génie, Napoléon. Nous sommes commandés par des assassins, des fous, des prisonniers plus nazis que les nazis eux-mêmes. Enfin, à l'actif de rigueur, disons qu'il autorise le soir et le dimanche les visites dans notre bloc, ce qui est peu courant et que cela nous permet de nous retrouver souvent entre camarades français dans une baraque où russes, polonais, tchèques, hollandais, italiens et espagnols sont nos principaux compagnons. Cela nous permet aussi de bavarder, de raconter ce que nous avons vu et d'apprendre ce que d'autres ont vu. On écoute et la haine du fascisme monte, grandit, s'affermit, qui deviendra éternelle. Nous parlons de Dachau et un de nos camarades évoque la fameuse chambre à gaz camouflée en salle de douche. Un jour, au hasard, on appelle une cinquantaine de prisonniers pour aller aux douches. Arrivés dans la salle, ceux-ci déshabillés, s'aperçoit bientôt que, au lieu d'ouvrir les appareils à douche fixés au plafond, ce sont des ouvertures pratiquées dans le sol qui sont libérées pour laisser échapper le gaz mortel. Asphyxie, folie, ont vite fait leur œuvre. Perfection de l'organisation nazie, le salle des gaz est voisine du four crématoire. Ainsi disparaissent sans témoin des camarades qu'on a vus partir un jour et dont on ne sait ce qu'ils sont devenus. Mais cela n'est rien, nous dit Boulanger, qui revient de Nassweiler, près de Schirmeck, en Alsace. Là-bas, pour aller au travail, nous dit-il, nous montions sur la crête d'un talus. Au flanc de celui-ci, de chaque côté, des barbelés dont il ne fallait évidemment pas approcher, car c'était la possibilité d'une évasion. Or, il arrivait qu'un SS ou un capot ayant pris en grippe un déporté quelconque lui donnait, tout en marchant, un bon coup d'épaule. Le malheureux déséquilibré dégringolait le long du talus. Aussitôt, deux SS postés en bas ajustaient notre camarade et l'abattaient à coups de mitraillette, motif tentative d'évasion. Car il faut remarquer que lorsqu'il ne s'agit pas de pendaison ou d'exécution officielle par un peloton, les bourreaux s'arrangeaient toujours pour camoufler les morts en accident ou en imprudence grave de la part des victimes. Comme si, dans leur esprit constamment torturé, ces brutes cherchaient à se ménager des excuses pour un éventuel examen de conscience ou pour des explications possibles. Ainsi, à Dachau, comme à Buchenwald, à Mauthausen ou ailleurs, le coup de la piqûre pouvait parfaitement passer pour un accident. On inoculait à la victime choisie un virus, entraînant une mort rapide, et pour pouvoir aller déjeuner la conscience tranquille, le SS n'avait plus qu'à supposer que, après tout, on avait pu confondre virus et sérum. Mais comment les victimes étaient-elles choisies? Sans doute parmi les déportés qui avaient commis une faute grave? Eh bien non, pas du tout. Une catégorie pourtant représentait la sélection dans laquelle SS et capot puisaient le plus volontiers, c'était celle des vieillards, des malades et des déficients. En effet, avoir de bons bras et une santé acceptable, c'est-à-dire être apte au travail, comportait une sorte de garantie plus ou moins illusoire. Voilà pourquoi nos quatre braves toubis français d'Allard, Jacques, Lafitte, Prat et Chrétien, nous disaient toujours « Tenez le coup les gars, ne vous laissez pas embarquer dans les déficients à Dachau. Nous ne pouvons rien vous dire, mais n'y allez pas. » Car l'infirmerie d'Allard ne soignait que les blessures peu graves et les maladies bénignes. C'était si vrai, cette phobie du déficient et de la bouche inutile, que voici quelle scène horrible, souvent répétée, a été vue à Nassweiler. Au rassemblement, un SS repère un déporté qui a eu le bras cassé à celui-ci dans le plâtre, à coups de marteau. Le SS brise le moule et force le malheureux à aller au travail, le bras lamentablement ballant et le visage crispé de douleur. Bien entendu, notre pauvre camarade ne peut travailler convenablement. Alors, à bout d'injures, le SS le fait étendre à terre, le dos sur une grosse pierre pointue, puis marche sur son corps. Eussions-nous imaginé une telle scène d'horreur qui la plupart du temps entraînait la mort? Non, certes, et pourtant que de choses plus terribles encore n'évoquions-nous pas dans ces réunions où il fallait guetter l'espion, le traître qui pouvait être parmi nous.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarades. C'est un nom terrible à dire quand le temps d'une mascarade il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade. Joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais. Dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Ce mari, cerise et grenade aux 100 fleurs du mois de mai.
L'abominable concours continué, quelle serait la vérité la plus atroce qui remporterait la palme trempée dans le sang? Celle-ci peut-être. Dans plusieurs camps, il fut longtemps de coutume de présenter les morts à l'appel. Oui, ces messieurs les SS ne voulaient modifier leur chiffre des présents qu'en fin de journée. Dès lors, s'il y avait eu des morts dans la nuit, et il y en avait soit par épuisement, soit par suicide, hélas, les vivants les transportaient comme ils pouvaient sur les rangs, et au moment de l'appel, les cadavres, tenus debout, comptaient dans les rangs de 10 comme les autres. Par instant, vous le comprenez, on avait envie de ne plus parler de peur, d'apprendre, plus terrible encore, et pourtant. Pourtant, comment ne pas savoir ce que confirmait par trop de témoins nous raconte maintenant Savenot, militant au courage indomptable. Les malades aussi, dit-il, devaient être conduits au rassemblement matinal pour le travail. On les transportait comme on pouvait, un jour dans un commando de 50, on dut en transporter 20. Après l'appel, les malades devaient être étendus à terre au soleil. Dans la journée, il fallait les déplacer plusieurs fois pour qu'ils fussent toujours au soleil. Pourquoi ? Parce que les SS venaient là arroser la tête des malades avec de l'eau glacée, geste charitable de mauvais aloi, puisqu'immanquablement, ils provoquaient la congestion mortelle. Invasion, tout cela, oui, invention terrible, qui ne pouvait germer que dans des cerveaux où les vertèbres prenaient finalement la forme d'une croix gammée. Comme on avait envie de s'évader parfois, hélas, la garde était terriblement sévère, la faim apparaissait souvent trop proche et les châtiments trop mortels. La pendaison, c'était pour les évadés repris, mais après la constatation d'une évasion, l'ensemble du camp, rassemblé, restait debout, au garde-à-vous, pendant des heures, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé les fuyards, ou qu'on ait perdu tout espoir de les retrouver. Ainsi, à Dachau, en plein hiver, tous les déportés restèrent sur place pendant près de 60 heures, sous 20 degrés au-dessous de zéro. Combien tombèrent pour ne plus se relever, nul ne s'en souvient, mais quel cauchemar pour ceux qui le vécurent, et combien... Il faudra les excuser lorsqu'ils exigeront pour les prisonniers allemands en France un autre traitement que celui que des optimismes béats, résistants à éclipse, veulent leur accorder. Où était-il ce camp où les capots, ayant frappé jusqu'à ce qu'ils tombent sans vide, des pauvres déportés politiques les faisaient charger sur des wagonnets remplis de vases et faisaient déverser le tout, pardonnez-moi l'expression, dans le ravin à combler. En rentrant au camp, le soir, il déclarait « Aujourd'hui, un accident mortel ». À Dachau, n'a-t-on pas enfermé, empilé jusqu'à l'étouffement, des dizaines de déportés dans une petite pièce pour voir combien de temps ils pourraient respirer dans un cube d'air restreint? Expérience, bien sûr, les retirer tous morts 12 heures plus tard, accident, évidemment. Eussions-nous inventé ce jeu atroce qui consistait à jeter le béret d'un déporté dans les barbelés électrifiés en forçant son propriétaire à aller le chercher sous la menace du revolver? 9 fois sur 10, le malheureux mourait, tué d'une balle ou électrocuté. Tout cela n'est pas possible, direz-vous. Hélas, les témoins vous affirment le contraire, par dizaines de mille. Et lorsqu'on avait pour 12 heures de plus échappé à la mort, quel supplice n'était-ce pas de lutter toute la nuit contre les poux? Près de Campton, que les Savoyards Bercher et Vergus m'excusent d'avoir oublié le nom de leur commando, quand on mettait la main dans sa poche, on la ressortait pleine de poux. La vermine, la famine et sanctions stupides, il y a 4 mois, du camp d'Allard s'évadent 2 Français. Un officier et un inspecteur de police, le commandant du camp, le sinistre Yarlin, demande qu'on désigne au hasard 2 Français ayant des fonctions identiques dans le civil pour les envoyer en punition via Dachau. C'est ainsi qu'un soir, partirent le colonel Friot et le commissaire de police parisien Caplin. Je ne sais ce qu'est devenu le premier, mais le second fut retrouvé dans un petit village près d'Augsbourg, abandonné tout nu, frappé d'amnésie partielle, maigre à faire peur. Et ceux qui ont commandé cela se suicident. Comment c'est commode? Mais ceux qui ont exécuté, paieront-ils? Paieront-ils pour les 10 000 morts que le typhus a fauchés à Dachau, de novembre à avril? Sait-on que là-bas, on ne soignait pas le typhus, on se contentait d'isoler le bloc, où des cas étaient signalés, là enfermés, les malades contaminés, les bien portants, et le bloc était bientôt vidé par extinction, par extermination.
Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non au vent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa dulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine ou qui se tuent pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Le
30 avril, à 11h du matin, le premier char américain arrivait en vue du camp. Je vous fais grâce des sanglots qui étouffèrent nos vivats, de la façon aussi dont les barbelés cédèrent enfin sous notre poussée. Mais il faut que vous sachiez que le premier américain qui entra au camp y fut accueilli par 12 magnifiques drapeaux représentant les 12 nationalités encore présentes au camp. Ils claquèrent au vent dans le soleil, ce bleu, ce blanc, ce rouge de France, ce rouge de l'Union soviétique, ces couleurs des Pays-Bas, de Pologne, de Belgique, d'Espagne, de Slovénie et de toute l'Europe. On les avait eus, les Boches, et ces drapeaux étaient tout prêts depuis longtemps, et jamais, malgré toutes leurs fouilles, ils ne le surent. Cette histoire, donc, n'est pas mienne. Elle est celle de centaines de milliers de Français, de milliers de Françaises, qui, ne l'oublions pas, ont souffert autant que leurs frères de détention. Aussi, au nom de ceux qui sont morts là-bas, au nom de ceux qui, revenus, souffrent encore, au nom de ceux qui souffriront toujours, je vous adresse cette prière. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais la mauvaise foi, la duplicité, le sadisme. La mauvaise foi, souvenez-vous du coup des photos de famille, de la fausse salle de douche, de ce bon papa rôtier du Nord qui fut déporté comme nous à 58 ans pour avoir donné 10 francs à une quête en faveur de la veuve d'un fusillé par les Allemands. La duplicité, ce Meister allemand qui, pour couvrir une faute professionnelle, personnelle, fait pendre successivement 4 déportés. Et l'entente odieuse existant entre les SS et les capots, choisie parmi les détenus eux-mêmes. Le sadisme, est-il besoin de vous rappeler toutes les horreurs dont je viens de vous parler? Le régime est condamné, nous sommes bien d'accord, ce régime trompe-l'œil, dont la façade sociale a pu abuser beaucoup de Français, m'a toujours fait penser à un magnifique décor devant lequel des artistes jouaient joyeusement et allaient ensuite se faire tuer dans les coulisses. Reste le peuple allemand. D'abord, il faut le refaire en s'y prenant par la base, par l'enfance, et en même temps lui montrer où l'a conduit cette guerre qu'il voulait gagner, lui montrer qu'il a perdu, tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il a fait perdre. Enfin, qu'on me permette au nom de tous mes camarades déportés politiques de formuler un vœu, qu'aucun prisonnier allemand appelé à travailler en France ne soit logé et nourri par l'habitant. Il serait odieux que tant que la France souffrira, que des déportés déficients mourront, des SS puissent manger du beurre en Normandie, des poulets en Bresse et boire du vin en Roussillon. Il faut qu'ils vivent dans les camps et qu'ils n'en sortent que pour aller travailler. Et que toutes nos routes soient refaites, nos maisons reconstruites, nos villages embellis par ceux qui ont provoqué tant de catastrophes. Pendant 6 ans au moins, que tous les travaux durs de France soient pour eux, ce sera peine bien légère pour tout ce qu'ils nous ont fait. Allons, Français, n'oubliez jamais, car l'oubli, c'est le pardon. Le pardon, c'est la faiblesse, et la faiblesse serait notre perte. Signé Georges Briquet, matricule 74 311 à Dachau. C'était Clé en main sur Radio Grand Ciel RGC. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, qui nous rapproche. Wrapped around your finger, pulling strings to play my heart. You fill the night with conversation, then turn the daylight dark. Oh, I can't stay away. Oh, the devil's wings, couldn't stop her if I tried.